Écoutez voir. L'art médiéval. Écoutez voir l'art médiéval.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, Écoutez et voir l'art médiéval. Le thème de notre sujet aujourd'hui est le retable des Cénacles de Matthias Grünewald et l'exposition Tour 1500, Capitale des Arts, qui a eu lieu en 2012. Avant de donner la parole aux intervenantes, nous allons commencer par une brève mise en contexte du retable des Cénacles. L'Ordre des Antonins est créé en 1093 dans le Dauphiné par un seigneur nommé Gaston. Son fils était atteint de mal des ardents qui ravagea l'Europe au Xe siècle. Cette épidémie entraînait le détachement de membres corporels du tronc. Aucun remède permettait d'embrayer cette maladie, à part l'aide divine. Le fils du seigneur Gaston fut guéri par l'intercession de Saint Antoine. Ce couvent était donc un hospice, et ce sont abbé Guiguerre qui aurait commandé ce retable, réalisé entre 1512 et 1516 par le peintre Matthias Grünewald et le sculpteur Nicolas d'Aguenau. Bonjour Coralie, pouvez-vous nous présenter l'aspect général du premier panneau de l'œuvre afin que nos auditeurs puissent ainsi visualiser ce retable? Pouvez-vous nous présenter rapidement sa composition ainsi que le personnage présent sur ce premier panneau? Pourquoi l'artiste a orienté son choix sur ce genre de scène?
Bonjour Yula. Il s'agit dans un premier temps de voir le retable fermé. Il se compose d'un panneau central présentant la crucifixion, de deux panneaux collatéraux composés d'une part de Saint Sébastien et d'autre part de Saint Antoine, et d'une près d'elle, c'est-à-dire donc le panneau qui est en dessous, qui dévoile une scène de la déposition, la scène où l'on retire le Christ mort de la croix. Enfin, l'artiste a orienté son choix vers une crucifixion, révélant un Christ souffrant. À la fin de la période médiévale, les ordres mendiants, tels que celui de Saint François, développent une piété attendrissante. En quelques mots, il s'agit de méditer sur la souffrance du Christ lors de la Passion.
Le retable de Grünewald est très original, mais peut-être il existe des œuvres qui sont similaires à cette création ?
Oui, bien sûr. Il est intéressant de voir un rapprochement avec la crucifixion de Karlsruhe, donc, qui date de 1523-1525, de Grünewald également. Les mains du Christ sont très expressives dans les deux cas. Les doigts sont activés par des convulsions les agitant vers le ciel. L'orientation des deux visages révèle quant à elle une différence, puisqu'à Isenheim, il est moins orienté vers le sol et entre plus en interaction avec le fidèle. Le Christ, quant à lui, n'a plus cet aspect aussi terrible. Il apparaît plus humain, plus mort. Sa cage thoracique remontée indique l'étouffement auquel il a succombé. Et grâce à ce réalisme, on a l'impression d'être face à son dernier spasme avant sa mort.
Même si vous dites que cette crucifixion reflète l'art de Grünewald, peut-être qu'on peut dire qu'il suit quand même une composition relativement classique ?
Oui et non. Pour reprendre votre terme, la composition est classique seulement par la présence de Saint Jean et de la Vierge. En revanche, d'autres personnages sont présents. D'une part, on a Madeleine qui implore le Christ à l'avant de Saint Jean, tenant dans ses bras la Vierge. Et d'autre part, à droite de la croix, Jean-Baptiste évoque la résurrection par l'inscription « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Selon Jean-Baptiste, Saint Jean a pris sa place dans les bras de Marie, tandis que lui disparaît. L'agneau présent entre Jean-Baptiste et le Christ insiste sur sa résurrection. Il est blessé dans le poitrail et son sang coule dans un calice.
Ah oui, il y a une recherche, une certaine mise en scène. Il y a de nombreux personnages, on en compte 5 en plus de l'agneau. Alors, pouvez-vous nous parler de leur relation au sein de ce retable ?
Effectivement, l'effet théâtral et dramatique est présent. Selon moi, il est intéressant d'insister sur le contraste de la Vierge apporté par son manteau blanc. Malgré la scène et les tons macabres de la crucifixion, la Vierge attire vraiment l'œil. Mais vous parlez de relation, alors comme le veulent beaucoup d'œuvres médiévales, regardons ensemble où nous mènent les différents personnages. Jean-Baptiste désigne le Christ. L'agneau regarde le Christ tout en étant à la hauteur de ses pieds. Si l'on parcourt le Christ, sa tête est orientée vers le bas, c'est-à-dire vers Madeleine. Et le vêtement de Madeleine entre en contact avec la Vierge. Quant à Jean, il est effacé derrière le vêtement blanc de la Vierge. Alors, on peut dire que la Vierge, par son manteau et les regards de tous les personnages, est représentée comme un rayon de lumière, une reine des cieux. C'est véritablement une image d'espoir. Effectivement, c'est elle qui, par l'enfantement du Christ, rachète le péché d'orgueil d'Adam et Ève.
Merci Coralie.
Merci à vous.
Nous allons passer maintenant à la partie suivante avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Pouvez-vous nous en raconter un peu plus à propos de ce retable ?
Le retable d'Isenheim fonctionne selon un système de volets. Comme l'a dit Coralie, la crucifixion est visible lorsque le retable est fermé. Ensuite, quand l'on ouvre le retable, on voit quatre scènes partant de la gauche vers la droite, l'Annonciation, le concert des anges, la Nativité et enfin la Résurrection. Ce deuxième volet fait référence à la vie du Christ avec sa naissance et sa résurrection. Puis, quand l'on ouvre enfin le troisième volet, on observe un ensemble de peintures et de sculptures sur saint Antoine. Cela montre alors que le retable est destiné à ce dernier, connu pour son pouvoir de guérison.
Pourquoi cette œuvre a été conçue et quelle est selon vous la partie la plus importante?
Alors comme on l'a vu, à Eisenheim venaient des hommes afin de pouvoir être guéris, c'est pourquoi le retable a été conçu. Moi je vais beaucoup plus me concentrer sur le troisième volet qui est selon moi le plus important puisqu'il détermine la raison pour laquelle le retable a été réalisé. Le volet est départagé en trois panneaux distincts mettant en image la conversation de saint Antoine et de saint Paul dans le désert à gauche, la tentation de saint Antoine à droite et enfin les sculptures au centre.
Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la figure de saint Antoine ?
Dans la tentation de saint Antoine à droite, le saint est représenté dans une scène de désespoir. La composition est confuse, notamment par l'enchevêtrement des corps. Grunewald a également travaillé sur les mouvements et les couleurs. À côté du corps de saint Antoine couché autour de démons, une feuille de papier indique, je cite, « Lorsque vous étiez là, mon bon Jésus, lorsque vous étiez là, pourquoi n'êtes-vous pas venu panser mes plaies ?» L'ermite criait certainement cela dans sa détresse, mais l'on peut voir que sa demande est exaucée, puisque des anges se dessinent dans le ciel et s'apprêtent à venir le délivrer et tuer les démons.
Vous avez dit que ce retable est conçu pour soigner les malades. Trouve-t-on des références dans le tableau ?
Oui, tout à fait. Grunewald va loin dans sa représentation des personnages. Sur le panneau dont je viens de parler, dans la partie inférieure gauche, un monstre est représenté, il peut alors symboliser les malades venant à Eisenheim. Et dans la conversation de saint Antoine et saint Paul dans les déserts à gauche, se trouvent des plantes médicinales à leurs pieds, faisant référence à la première fonction du retable. Les deux personnages sont face à face, présentant un animal au centre, apportant alors de la sérénité au paysage.
Pouvez-vous nous parler des sculptures de ce retable ? Pourquoi ce sont des figures importantes ? Et pourquoi ce choix de mélange de matières qui a été fait ?
Alors le cœur du retable est consacré à la sculpture de saint Antoine. Il trône alors en souverain, il semble occuper un rôle de juge. Saint Augustin est à droite et saint Jérôme à gauche et il se tourne vers saint Antoine. On retrouve également deux porteurs d'offrandes effectuant des dons en nature. De plus, le commanditaire Guy Gers est agenouillé et vénère saint Antoine. Dans l'après d'elle se trouve le buste du Christ tenant l'orbe en compagnie des apôtres représentant la scène étant la préfiguration de l'Eucharistie. À travers les sculptures, l'échange entre le saint et le fidèle est ainsi mis en avant. Et les reliques de saint Antoine se trouvant dans les sculptures, cela accentue alors l'idée de pouvoir de guérison et de miracle.
Et qu'est-ce qui symbolise donc ce troisième panneau ?
Il symbolise alors la venue des malades à Eisenheim afin d'avoir une chance de guérir.
Merci Anaïs pour votre intervention qui nous a permis de connaître plus à propos de symbolique de retable d'Eisenheim. Avant de continuer avec la chronique, vous allez entendre un bref extrait de la crucifixion d'Henri Salvador qui sera suivi d'une musique de Monica, de Rose et de Colombe. Monica grandit à Poitiers, mais pour la deuxième partie, on va voyager dans sa ville natale avec l'exposition Tour 1500 qui appelle Tal des Arts. A tout à l'heure après ce court passage musical.
Tu viens cet après-midi à la crucifixion ?
T'as qu'à venir avec moi, ça te changera les idées, ta bergère est pas là.
Soir quand tout se tait, garde la main fenêtre. Soir quand tout se tait, garde la main fenêtre. Il est qu'on y parlait de rose et de commence. Je sais qu'on y parlait de rose et de commence. Je sais cette chanson-là rappelle mes amours. Je dois qu'on tout se tait, garde la main fenêtre. Il doit qu'on tout se tait, garde la main fenêtre. parler de rose et de commence. Je sais qu'on y parlait de rose et à ma fenêtre. Si cette chanson-là rappelle mes amours, je ne sais plus très bien comment elle commence. Je ne sais plus très bien comment elle commence. Je sais qu'on y parlait de rose et à ma fenêtre. Il est qu'on y parlait de rose et à ma fenêtre. Si cette chanson-là rappelle mes amours, je ne sais plus très bien comment elle commence. Je sais qu'on y parlait de rose.
Et après cet instant musical, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, dans laquelle Tiffany et Louise vont nous présenter l'exposition Tour 1500, Capitale des Arts. Bonjour Tiffany.
Bonjour à tous, je vais vous parler de l'exposition Tour 1500, Capitale des Arts, et de l'ouvrage portant sur cette exposition.
En quoi consiste cette exposition ?
Tour 1500, Capitale des Arts, est le titre d'une exposition organisée au Musée des Beaux-Arts de Tours, qui s'est déroulée de mars à juin 2012. Cette exposition rassemble des chefs-d'œuvre tels que des panneaux, manuscrits, vitraux et sculptures de la pré-Renaissance tourangelle. Elle s'inscrit à la suite de la grande exposition qui s'est déroulée aux Galeries Nationales du Grand Palais en 2010, nommée France 1500.
Quel est donc son intérêt ?
Cette manifestation montre la richesse de la vie artistique et du patrimoine du Val-de-Loire. Elle rassemble des œuvres venues de musées et bibliothèques les plus prestigieux dans le monde, tels que la British Library ou la Bibliothèque Nationale de France pour leurs manuscrits, mais aussi le musée du Louvre ou le Victoria and Albert Museum.
Ah, il y avait donc un échange entre les musées. À qui doit-on en particulier cette exposition ?
Cette exposition est due aux avancées de l'histoire de l'art, qui offre au public l'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres ayant fait l'objet d'acquisitions, de restaurations et de travaux scientifiques récents. Celle-ci est sous la direction de Béatrice de Chancel Bardelot, pensionnaire à l'Institut National d'Histoire de l'Art, et de Pascal Charon, maître de conférences au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours.
Pouvez-vous nous citer les contextes historiques afin d'avoir une idée générale de la situation politique de cette époque ?
Il faut savoir que vers 1423-1483, à l'époque où Louis XI séjourne à Tours, la ville connaît un réel essor artistique. Comme le suggère le titre de l'exposition, Tours 1500, Capitale des Arts, cette situation est d'abord due au poids des commanditaires royaux, qu'il s'agisse du souverain lui-même ou des principaux agents de l'administration du royaume. La résidence royale induit l'installation, ou du moins le passage régulier, dans la cité tourangelle des membres du gouvernement, de l'entourage familial du souverain et de sa cour. Un fort dynamisme artistique se développe à Tours. Des artistes d'exception, comme le peintre Jean Fouquet, originaire de Tours, ou le sculpteur Michel Colombe, contribuent à établir la renommée de la ville.
Et qu'est-ce qu'il nous apporte, ce dynamisme ?
Ce dynamisme permet d'en faire un foyer artistique très riche, avant que le centre de la création ne se déplace vers Paris et Fontainebleau sous le règne de François Ier. Certains ont pris conscience de l'âge d'or de la ville qu'au milieu du XVIe siècle, comme l'avocat et humaniste tourangeau Jean Brèche. Celui-ci parle de la ville de Tours comme d'un foyer d'artistes en tout genre. Il cite même quelques noms d'artistes tels que Jean Fouquet et ses fils, mais aussi Jean Poyer et Jean d'Ambroise. Ainsi, de cette exposition est tiré l'ouvrage Tours 1500, paru en 2012, dans lequel on se rend compte que par la présence royale, la région est un foyer de génie artistique français à la fin du XVe siècle, qui compte parmi les plus foisonnants à côté des centres flamands et italiens.
D'accord, il y avait donc un ouvrage et une exposition. Quels sont les principaux thèmes de cet ouvrage ?
L'ouvrage traite de la présence royale française qui se révèle dans le premier chapitre, abordant la question des conditions de la création artistique. Puis plus franchement, les différentes œuvres de l'exposition, telles que l'architecture et son décor, la sculpture, la peinture et les arts graphiques. L'ouvrage traite enfin des conditions de la création artistique, influençant les grands thèmes iconographiques et les conditions d'échange, de circulation et de diffusion du modèle italien à travers des exemples d'œuvres précises.
Je vous remercie Tiffany pour votre intervention. Nous allons maintenant passer la parole à Louise. Bonjour Louise, vous allez maintenant nous présenter le catalogue de l'exposition Tour 1500, Capitale des Arts. Qu'est-ce que l'on découvre alors dans cet ouvrage ?
Bonjour Julia. Comme l'a dit Tiffany, cette exposition qui eut lieu en 2012 rassemble des œuvres venues de musées et de bibliothèques prestigieuses dans le monde qui sont regroupées dans le catalogue. J'ai fait le choix de vous présenter trois œuvres qui ont été acquises par la ville de Tours pour l'occasion.
Pouvez-vous nous dire de quelles œuvres s'agit-il ?
Tout d'abord, acquise avec l'aide du FRAM, le Fonds Régional d'Acquisition des Musées, une Vierge de Pitié réalisée par l'école de Tours, sculptée aux environs de 1480. Ce groupe sculpté de la Vierge et du Christ en tuffeau mesure près d'un mètre de hauteur sur un mètre de largeur. C'est un ensemble qui se trouvait dans l'ancien chœur de l'église paroissiale Saint-Michel de Villeloin, petite commune de la région Centre-Val-de-Loire. Béatrice de Chancel-Bardelot, à qui l'on doit en partie l'exposition, conservateur du patrimoine et professeur à l'école du Louvre, explique dans le catalogue de l'exposition que l'iconographie de la Vierge de Pitié se répand dès 1300 dans les cours du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et de son frère le duc Jean de Berry.
Cette œuvre est-elle en bon état de conservation ?
Eh bien, plutôt oui. Constituée à l'origine d'un seul bloc de tuffeau, on a juste remarqué une perte de matière au niveau de la taille de la Vierge uniquement. Hormis ce détail, le groupe sculpté est en parfait état.
Pouvez-vous nous décrire un peu plus ce groupe sculpté, pour que nos auditeurs et des auditrices puissent le visualiser ?
Bien sûr. La Vierge est représentée les bras en croix sur sa poitrine et traitée avec raffinement. Les traits de son visage font d'elle une sculpture presque animée, et les plis de son habit sont aussi réalisés avec une grande maîtrise. Quant au Christ, il est allongé, sa chevelure ondoyante et bouclée. Les traits de son visage, de ses yeux et sa barbe révèlent un art gothique à son apogée.
On peut dire que la sérénité des visages et la posture de la Vierge sont des caractéristiques de l'art en Touraine autour de 1500, n'est-ce pas ?
Tout à fait, Julia. Laissez-moi vous présenter maintenant deux œuvres acquises aussi pour l'exposition, œuvres réalisées par Jean Bourdichon.
Petite précision pour nos auditeurs et auditrices, Jean Bourdichon était un peintre et illumineur actif à Tours, qui servit successivement Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier.
Exactement, Jean Bourdichon, natif de Tours, qui y travailla lorsqu'elle fut capitale des arts, titre même de l'exposition et du catalogue que nous sommes en train de présenter. Les deux œuvres dont je vais vous parler ont été acquises sur le thème du Christ bénissant et la Vierge en oraison, inspirée de l'art byzantin. Déjà présente dans un article publié en 2008 dans la Revue du Louvre et des Musées de France par Dominique Thiébault, conservateur général au département des peintures du Musée du Louvre, qui s'intitulait « Deux panneaux peints de l'école du Louvre », font finalement leur entrée dans la capitale tourangelle. Et c'est grâce au mécénat de PGA Holding, Pierre Guénant et associés. C'est donc une très belle Vierge en oraison de petit format et un Christ bénissant légèrement plus grand de 2 cm. Les deux panneaux de la Vierge en oraison et du Christ bénissant se font face. Le traitement des deux figures est le même. Ils sont inspirés de l'iconographie byzantine et sont représentés sur un fond or vêtu de bleu, un bleu un peu plus soutenu pour le Christ. Leur nimbe est de couleur rouge avec des rayons or et les cheveux du Christ et ceux de la Vierge sont délicatement traités.
Et pour ces deux œuvres qui font partie intégrale du patrimoine français, que peut-on dire quant à leur état de conservation, puisqu'il me semble qu'ils sont réapparus courant le XXe siècle ?
Malheureusement, les deux panneaux réalisés par Jean Bourdichon ont été très mal conservés. Les deux panneaux ont été à la fois amincis de 7 à 8 mm d'épaisseur et rognés. Pour la Vierge, la partie haute du nimbe et toute la partie basse du panneau a été amputée. Le Christ lui a perdu une main, puisque les quatre bords ont été coupés. Les rapports d'analyse menés par le Centre de recherche et de restauration des musées de France rapportent que les deux panneaux originels auraient perdu près de 10 cm. Je vous conseille donc vivement de jeter un coup d'œil dans ce catalogue si vous n'avez pas eu la chance de voir l'exposition. Et je rappelle qu'il est édité chez Somogy, très belle maison d'édition, pour voyager, si ce n'est qu'un instant à travers le temps, dans cette ville voisine qu'est Tours. Merci Julia.
Merci Louise. Eh bien, notre émission arrive à la fin. Merci à tous les intervenantes, Coralie, Anaïs, Stéphanie et Louise, ainsi qu'à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Écouter et voir l'art médiéval. Excellente journée à toutes et à tous.